Bonjour et merci d'écouter RDIWA 107.5 FM. Il est 18h et c'est l'heure de cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de road movies, et plus particulièrement de road movies américains. Au cours de l'heure qui vient, je vais essayer de voir pourquoi la route a pu être un lieu privilégié d'une forme de contre-culture, mais aussi comment elle est devenue un lieu commun et un cliché de la culture pop américaine dans l'imaginaire collectif.
Tu sais, Lloyd, t'as été si con que j'ai pensé que t'étais vraiment le dernier des demeurés. Eh ben, tu t'es quand même arrangé pour faire ce coup-là. Et tu t'es entièrement racheté à mes yeux.
Tu veux toujours aller à Aspen?
Oh oui, je veux. En route, mon pote.
Dans son livre A Cinema Without Walls, Movies and Culture After Vietnam, Timothy Corrigan définit la voiture au cinéma comme une maison authentique, une origine perdue où ce que l'on voit est ce que l'on est. La voiture, et donc par extension la route, sont pour le cinéma américain des moyens de réfléchir sur lui-même, d'une part parce qu'elles sont des éléments essentiels à l'histoire de la nation américaine, et parce que depuis la seconde moitié du XXe siècle, elles sont devenues le lieu privilégié d'une contre-culture marquée par la littérature beat des années 50, par la culture pop et au cinéma par ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood. Les États-Unis se sont construits avant tout sur la route et par le voyage. Le XIXe siècle est marqué par la conquête de l'Ouest sauvage, des rives du Mississippi à l'océan Pacifique. Le voyage à l'époque se fait en chariot, mais est aussi accompagné par la révolution des transports avec la construction des chemins de fer. Dès cette époque, la route au sens large du terme, donc le trajet entre un point A et un point B, prend une place extrêmement importante dans l'imaginaire collectif américain. Au cinéma, ce sont d'abord les westerns de John Ford qui s'approchent de ces thèmes et qui légitiment cette conquête violente en renforçant le mythe du blanc défendant sa terre face aux Indiens sanguinaires. Plus tard, des films comme Little Big Man d'Arthur Penn ou Danse avec les loups de Kevin Costner tentent de rétablir, si ce n'est la vérité, au moins un équilibre quant aux faits, au massacre des populations indiennes et à la violence des colons. Le film de Jim Jarmusch, Dead Man, va lui aussi dans ce sens. Con de blanc ne cesse de répéter Nobody, l'Indien qui soigne William Blake et décide de le guider vers ce qu'il appelle le miroir de l'eau pour que son âme puisse retourner à la vie spirituelle. Selon Jarmusch, Dead Man n'est pas un western traditionnel. Le western est ici un point de départ, de par le lien évident et indestructible qu'il entretient avec l'Amérique, mais aussi parce qu'il est un genre ouvert à la métaphore. Cependant, même si Jarmusch ne réalise pas ici un western au sens fordien du terme, il est intéressant de voir comment il s'en approprie les thèmes. Là où les westerns font de la conquête de l'Ouest le lieu de la construction de la nation américaine, Jarmusch inverse le processus et réhabilite la cause des Indiens. C'est Nobody, le guide de William Blake, jusqu'à l'océan Pacifique. Les Blancs, William Blake mis à part, sont présentés comme des illettrés brutaux et sanguinaires. À plusieurs reprises, Jarmusch filme les campements d'Indiens réduits en cendres. Tout au long du film, Blake est de plus en plus indien à mesure que le film avance. Il perd son costume, puis ses lunettes. Nobody lui peint le visage. Il revêt une fourrure à la fin du voyage. Une séquence en particulier fait basculer William Blake du côté des Indiens. Il découvre un jeune faon tué par une balle, son sang n'est pas encore totalement coagulé, et Blake le mélange au sien et se peint le visage avant de fermer les yeux et de s'endormir avec l'animal dans les bras. La caméra tourne sur elle-même, sur le contre-champ, les arbres tournent de plus en plus vite, comme une spirale qui emporte le jeune comptable blanc. Le voyage et par conséquent la route est bien et bien le lieu de la construction, non pas ici de la nation américaine, mais du personnage de Blake prenant le chemin inverse et devenant indien.
Thank you. The ancient tradition that the world will be consumed in fire at the end of 6,000 years is true, as I've heard from hell. The whole creation will be consumed and appear infinite and holy, whereas it now appears finite and corrupt. This will come to pass by an improvement of sensual enjoyment. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite.
Je le disais, la route est un élément essentiel à la construction des États-Unis, ce qui induit qu'elle peut également être un lieu d'évolution pour la société américaine. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez approfondir ce sujet, à lire le livre « Contre-culture et cinéma, Dennis Hopper à l'œuvre » de Christophe Cormier, paru chez L'Harmattan en 2008. Selon Cormier, la route tient une place prépondérante dans l'imaginaire américain et c'est à ce titre qu'elle présente un intérêt tout particulier, car elle peut être utilisée à des fins de critique sociale et donc à la redéfinition d'une identité collective. Mais profitons de la citation pour nous attarder sur le cinéma de Dennis Hopper, un cinéma imprégné de cette notion de critique sociale avec, bien sûr, Easy Rider. Easy Rider nous confronte à l'Amérique des années 60. Deux jeunes motards partent avec l'argent d'une vente de drogue et traversent le pays d'est en ouest. Durant leur voyage, ils sont confrontés à l'Amérique profonde, conservatrice et raciste, celle qui n'accepte pas les changements sociaux de l'époque. Cette idée de redéfinition de l'identité collective, posée par Cormier, ne s'applique bien entendu pas qu'au cinéma de Dennis Hopper. Le cinéma américain contemporain continue d'utiliser la route comme support à la critique sociale. Nombre de road movies présentent des sujets sensibles en lien avec l'actualité et dont les sujets font débat. On peut noter Transamerica, par exemple, qui pose la question de l'acceptation des transgenres dans notre société, même si le film n'est à mon avis pas une franche réussite. Ou encore Get on the Bus de Spike Lee, qui est un autre exemple de road movie apportant une idée de critique sociale. Dans Get on the Bus, Spike Lee nous présente une quinzaine d'hommes d'horizons différents, des anciens gangsters, des policiers, des étudiants, des retraités, embarqués dans un bus à Los Angeles, direction Washington, pour la Million Man March, une grande manifestation qui a eu lieu le 16 octobre 1995 devant la Maison Blanche et qui avait pour but, si on résume, de faire sortir les Afro-Américains des ghettos et de faire valoir les droits de leur communauté. La voiture, en l'occurrence le bus, eh bien ici cette maison authentique, cette origine perdue où l'on voit ce que l'on est, que définissait Timothy Corrigan. Par l'intermédiaire de ce bus, Spike Lee nous présente sa vision de la communauté afro-américaine et coupe ses personnages de toute distinction sociale. C'était bien sûr pas un coup d'essai pour le réalisateur new-yorkais qui tout au long de sa carrière a apporté une très large place à la critique sociale et à la place de la communauté noire aux États-Unis. D'une certaine façon, le road movie aux États-Unis semble être intimement lié à ce que nous appelons le cinéma indépendant. Par cinéma indépendant, il faut entendre les films produits par des petites sociétés de production en marge des grands studios hollywoodiens et qui ne possèdent pas forcément leur propre réseau de diffusion. Attention toutefois au raccourci facile, le cinéma indépendant n'est pas à opposer à une notion de cinéma dit commercial. Il ne détient pas non plus le monopole de la qualité artistique. Certains grands cinéastes n'ont jamais exercé en dehors d'Hollywood, par exemple. Cependant, le circuit indépendant a l'avantage d'avoir les coudées un peu plus franches et c'est souvent en son sein que se développent les projets originaux, parfois dérangeant, pas forcément contestataire, mais au moins critique sur l'état de la société. Et dans ce système de production, la route semble jouer un rôle important. Citons Easy Rider, donc, Macadam Cowboy de John Schlesinger, My Own Private Idaho de Van Sant, dont j'ai longuement parlé dans une autre émission, ou plus récemment, un film comme Sad Ways, par exemple, d'Alexander Payne. Cette récurrence du motif de la route dans le cinéma indépendant américain peut avoir plusieurs explications. La première est financière. Les petites sociétés ne possèdent pas leurs propres studios et leurs budgets sont relativement minces. Cela peut expliquer le choix de se positionner sur des projets tournés dehors, sans location de studio, en équipe réduite, dans des dispositifs originaux et une économie réduite. Une autre explication à ce lien étroit entre le cinéma indépendant et l'image de la route peut être qu'elle permet une réflexion sur le cinéma lui-même, sur sa forme, par opposition à un cinéma plus mainstream. Le motif lui-même de la route renvoie au cinéma. Quelque part, les bandes blanches qui la jalonnent rappellent la perforation de la pellicule. Dès lors, la route n'est plus un simple décor. Surtout, la route demeure un lieu d'une sorte de rite de passage, autant pour les personnages que pour les cinéastes eux-mêmes. De nombreux réalisateurs ont ainsi débuté leur carrière sur la route, et elle fait partie d'une idée de quête initiatique. Merci d'écouter RDIWA 107.5 FM, RDIWA.fr, et nous reprenons la route pour ce numéro de Cinéma Cinéma consacré aux road movies. Christophe Cormier, dans son ouvrage sur Dennis Hopper, commence son 9e chapitre intitulé « Route », en pointant du doigt le regain d'intérêt que connaît le road movie à la fin des années 60, regain qui est dû selon lui en partie aux expériences des écrivains beat, en particulier à Jack Kerouac et son roman « On the Road » paru en 1957. En effet, si la route était déjà présente avant les années 60 dans le paysage cinématographique américain, pouvons citer New York Miami de Frank Capra, ou l'adaptation des Raisins de la colère par John Ford, les écrivains de la Beat Generation ont su en faire le cadre d'une forme de littérature qui va trouver son écho dans le cinéma, tant sur les thématiques invoquées que sur la recherche esthétique. citons ce passage extrait d'Interzone de William Burroughs. Interzone étant la première version de ce qui deviendra le festin nu. La voiture roulait comme en rêve, sans plus de contact avec la vie, les forces et les réalités de la ville. Ils étaient seuls, protégés, et ils filaient à travers la nuit d'été, telle une lune autour de la terre. Le tableau de bord brillait comme un âtre, éclairant les deux visages juvéniles, l'un veule et beau, d'une beauté destinée à vieillir jour après jour, l'autre fin, intense, révélant à n'en pas douter les qualités vaguement couvertes par le qualificatif d'intellectuel, mais aussi un air d'animal torturé, piégé. Le compteur ne cessait de grimper. 70, 90. Ces mots extraits d'Interzone pourraient tout aussi bien être le synopsis de Thelma et Louise, d'Into the Wild ou encore d'Un monde parfait. L'imagerie de Road Movie est là. La nuit et ses lumières naturelles, la lune, et artificielles, les néons des motels, les phares, les réverbères, la route, les personnages torturés ou avides de liberté, ceux-là même que Kerouac appelle les clochards célestes. L'écriture peut-elle aussi, dans sa forme, annoncer une certaine idée de construction cinématographique. Les phrases de Burroughs ressemblent à une succession de plans. D'abord un plan large de la voiture, puis la caméra entre dans l'habitacle, nous décrit l'intérieur de la voiture, se rapproche des visages, passe de l'un à l'autre, s'attarde sur des détails, puis retourne vers le compteur où l'aiguille ne cesse de grimper à un rythme régulier. L'imagerie poétique qui se dégage de ces textes entre en écho avec un cinéma qui, s'il utilise la route comme moyen de réfléchir sur lui-même et sur sa construction, interpelle également d'autres formes artistiques dans sa recherche pour se réinventer. Et en effet, avec l'arrivée de la fin des années 60 et ce qu'on appelle communément le nouvel Hollywood, le cinéma américain va chercher de nouvelles formes d'expression. La photographie, d'une part, on pense par exemple à Elliot Erwitt ou encore Robert Frank, mais également la musique rock et psychédélique de l'époque qui s'invite de plus en plus dans les bandes originales des films. Jimi Hendrix en Flam Easy Rider, Francis Ford Coppola débute son Apocalypse Now avec la voix de Jim Morrison des Doors annonçant This is the End. La musique fait partie intégrante des films et appuie elle aussi le discours cinématographique. Je disais au début de l'émission que la route était un élément déterminant de la construction de la nation américaine. La conquête de l'Ouest est ancrée dans la culture collective américaine et cette idée a été renforcée par le cinéma avec les westerns, entre autres de John Ford. Mais à partir des années 50, une partie de la jeunesse américaine, ceux qui ont ensuite été appelés les beatniks, commence ce qui peut être vu comme une seconde conquête de l'Ouest. La ville de San Francisco, qui accueillait déjà les émigrants au début du 19e siècle, lors de la ruée vers l'or, devint alors un des plus gros foyers de la contre-culture et en particulier le mouvement beat. Bien que le mouvement se soit créé à New York, plus précisément à Greenwich Village, c'est à San Francisco qu'il va réellement se développer en cela qu'elle était une ville qui, en pleine période de chasse aux sorcières, recevait alors de nombreuses influences culturelles, expériences et offrait un environnement accueillant aux radicaux, anarchistes et communistes. Alors, c'est dans le quartier de North Beach que vont s'installer les poètes beat et que va se former un mouvement de contestation intellectuelle qui va ensuite trouver son écho dans d'autres mouvements comme le mouvement hippie qui, bien qu'influencé par les expériences de la Beat Generation, sera plus un mouvement hédoniste de masse. San Francisco devint également un emblème pour la communauté homosexuelle dans les années 70, grâce notamment à Harvey Milk, premier homosexuel élu aux États-Unis. Dans cette seconde conquête de l'Ouest, la Route 66 apparaît comme un symbole. Longue de près de 4000 km, elle reliait Chicago dans l'Illinois à Santa Monica en Californie. Si la route n'est plus utilisée aujourd'hui, elle a été officiellement déclassée en 1985, remplacée par un réseau autoroutier plus performant, elle conserve une dimension symbolique presque mythique dans l'imaginaire américain. Les longues lignes droites bordées de désert, ainsi que les enseignes lumineuses des motels qui bordent la route, sont devenues le fonds de commerce d'un cinéma de la route qui a traversé les genres et les époques. Que cela soit les motos avides de liberté d'Easy Rider, jusqu'aux films d'horreur comme Une nuit en enfer, de Robert Rodriguez en 1996, en passant par les comédies façon Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valérie Faris en 2006, ou les drames comme Drugstore Cowboy dont j'ai déjà parlé dans un précédent numéro. Plus que la Route 66 en elle-même, c'est avant tout les symboles qu'elle évoque qui forment un motif récurrent du cinéma américain. Tous les road movies n'empruntent pas cette route. Cependant, elle résonne dans l'imaginaire collectif comme un symbole de l'exode vers la côte ouest des États-Unis d'une partie de la jeunesse américaine des années 50 à 70. Les décors épurés deviennent un filtre qui amène les réalisateurs à construire leurs films dans une perspective qui tend à distordre les rapports, qu'il s'agisse des rapports entre les personnages. On occulte ce qu'ils sont dans la ville, les différences, les hiérarchies sociales qui en découlent. Dans une voiture, nous sommes tous égaux. Entre le spectateur et le personnage également. Le spectateur entre dans la voiture avec les personnages qu'il suit et se trouve face à un nouveau mode de perception du personnage, au plus proche de ce dernier et ne pouvant reprendre de la distance que lors des arrêts du véhicule. Mais aussi entre le cinéaste et son cinéma. Dans cette dernière perspective, la route devient un moyen pour le réalisateur de réfléchir sur son art en cela qu'elle impose de nouvelles contraintes. L'espace confiné de la voiture pousse au gros plan et à s'approcher au plus près des personnages alors que les plans extérieurs de la voiture poussent au plan très large, traversé par la route dans l'immensité du désert américain. Cette alternance très marquée dans les valeurs de plan font de la route un lieu de l'isolement extrême qui pousse les hommes à se rapprocher, les personnages à se confier et le spectateur à les comprendre différemment car assis sur le siège du passager. Je parlais également un peu plus tôt des personnages que Jack Kerouac appelait les clochards célestes, puis les anges vagabonds. Je reviens un petit peu à ces personnages et je vais essayer de voir comment ils ont investi une partie de la production cinématographique américaine et comment ils continuent d'alimenter les scénarios. Les clochards célestes font donc leur apparition en 1958 dans le roman du même nom signé Kerouac. Il s'agit de beatniks sans argent et comme Kerouac lui-même, attiré par le bouddhisme. Ces personnages sont poussés par le désir de quitter la ville. Et si on trouve les résurgences de ces personnages dans le cinéma américain, tous les personnages de road movie n'en ont bien sûr pas toutes les caractéristiques, notamment en ce qui concerne le bouddhisme. En revanche, les personnages désargentés, attirés par la poésie, poussés par un besoin profond de quitter la ville, peuplent, eux, les productions américaines depuis Easy Rider jusqu'à Into the Wild. Christopher McCandless, le personnage principal du film de Sean Penn, est peut-être d'ailleurs un de ceux qui se rapproche le plus des clochards célestes de Kerouac. Celui qui se renomme Alexander Supertramp est féru de littérature. Il s'essaie d'ailleurs lui aussi à l'écriture, gravant ses mots sur les planches de son dernier abri, le bus abandonné dans lequel il mourra à la fin du film. Il est également poussé par un besoin vital de quitter la ville et sa famille, de vivre hors la société, au plus proche de la nature. La route devient un vecteur d'une forme de liberté à la fois physique mais aussi intellectuelle. En s'affranchissant de sa vie dans la ville, de ses obligations financières, familiales ou scolaires, Alex acquiert une liberté sans bornes qui lui permet de se forger en tant qu'homme. La route garde bien ici une fonction de rite de passage pour le jeune homme. Lorsqu'il prend la route, il n'est plus qu'un gamin insolent qui rejette l'autorité parentale. Et comme il le dit lui-même, le moment où il quitte cette vie est pour lui une seconde naissance.
Satellite forever orbiting. I knew all the rules, but but the rules did not know me. Guarantee.
Vous écoutez Cinéma Cinéma sur RDIWA, RDIWA.fr 107.5 FM, et aujourd'hui je vous parle de road movies. Peter Biskind, dans son livre sur le nouvel Hollywood, pose le film de Dennis Hopper comme symbole de cette contre-culture. Easy Rider montrait des rebelles, des hors-la-loi, comme les victimes anéanties par les bien-pensants, par la majorité silencieuse, par la droite républicaine. On y retrouvait également cette colère oedipienne contre l'autorité en général et les parents en particulier. Il y avait enfin ce même côté sombre, cette espèce d'appréhension d'un désastre imminent. Si tous ces éléments, ces thèmes qui ont fait, selon Biskind, le succès d'Easy Rider sont avant tout l'expression d'une génération, d'un ressenti, d'une époque précise de l'histoire de la société américaine, les cinéastes qui vont suivre vont s'en emparer pour en faire les thèmes récurrents d'un cinéma qui continue aujourd'hui encore d'aller à l'encontre des standards de la production hollywoodienne. Par extension, Easy Rider fait du road movie dans son ensemble, le film « Sur la route », le genre emblématique, même s'il n'est pas le genre exclusif, d'une frange de la production américaine liée à cette contre-culture et qui va recycler ses thèmes. Un de ces thèmes récurrents est ce que l'on pourrait appeler une idée de fuite en avant, telle que, lorsque la situation semble sans espoir, mieux vaut continuer à avancer que battre en retraite. C'est l'idée d'un film comme Thelma et Louise, par exemple. Le film met en scène deux jeunes femmes qui, coupables d'un meurtre, entament une folle cavale qui les conduit au Mexique. Tout au long de leur cavale, elles vont multiplier les délits et se condamner elles-mêmes à fuir de plus en plus vite. Même si elles se rendent, les deux jeunes femmes sont coupables de meurtre et d'attaque à main armée. La seule solution est donc de continuer leur cavale. C'est également ce qui rejaillit d'un film comme Un monde parfait. Le thème de la cavale, commun à ces deux derniers films, est d'ailleurs souvent lié à cette idée de fuite en avant. Être hors la loi devient la caution de la liberté. Thelma et Louise, par exemple, sont de plus en plus vivantes au fur et à mesure de leur cavale. Une excitation renforcée par la crainte de se faire rattraper par la police. Et elles ne se laissent d'ailleurs pas reprendre, puisqu'acculées à une falaise, elles décident de se jeter dans le vide avec leur voiture. Butch, dans Un monde parfait, ne se fera pas reprendre lui non plus. Il meurt, tué par un agent de police, alors qu'il va se faire arrêter. Allongé dans l'herbe, il paraît serein et regarde son compagnon de cavale, un petit garçon d'abord otage, puis ami, s'éloigner en hélicoptère. De la même manière que Wyatt dans Easy Rider, assassiné sur sa moto par un de ces Américains qui ne comprend pas et n'accepte pas son mode de vie, Butch, Thelma et Louise meurent libres. Cette idée de fuite en avant est perçue en premier par Louise dans le film de Ridley Scott. Elle est la première à ressentir que sa fuite et celle de sa compagne Thelma n'a pas d'issue positive possible. C'est finalement elle qui foncera dans le Grand Canyon pour ne pas se laisser arrêter. Ridley Scott tentera de rendre cette fuite en avant moins sombre et sans espoir en clôturant le plan pendant lequel la Ford des deux jeunes femmes s'élance dans le Grand Canyon par un fondu au blanc. En 1967, soit deux ans avant que Dennis Hopper ne réalise Easy Rider, Arthur Penn met en scène Warren Beatty et Faye Dunaway dans Bonnie and Clyde. La route y tient déjà un rôle important au même titre que les personnages hors la loi. Premier succès de ce qui va devenir le nouvel Hollywood, Bonnie and Clyde ouvre une brèche dans le paysage cinématographique américain. Les réalisateurs font exploser le système des studios et font évoluer le cinéma américain, notamment en abordant les thèmes aujourd'hui pour certains usés d'avoir été traités sous tous les angles depuis une quarantaine d'années. Ces thèmes sont les sujets tabous de l'époque, comme la violence, la sexualité, et continuent aujourd'hui à alimenter une très large partie du cinéma américain. Si tous les films mettant en scène la violence, la drogue ou la sexualité depuis 40 ans ne se revendiquent pas nécessairement enfants de Bonnie and Clyde ou d'Easy Rider, ils doivent néanmoins à ces films d'avoir ouvert la voie, d'avoir fait évoluer le cinéma vers de nouvelles formes. Thelma et Louise, par exemple, a souvent été comparée à Bonnie and Clyde. De la même manière que le film d'Arthur Penn, Thelma et Louise met en scène une course-poursuite dans un scénario de film policier avec des personnages principaux hors la loi. Là où Bonnie and Clyde permettait à toute une génération de s'identifier pour la première fois à un jeune couple de hors-la-loi qui vivait pleinement ce que cette génération allait revendiquer quelques mois plus tard, Thelma et Louise fut écrit de l'aveu même de sa scénariste pour donner pour la première fois ou presque des rôles importants à des femmes. Importants au sens où elles seraient maîtresses de leur destin. Dès lors, le rôle movie s'est imposé et la voiture devient l'instrument de ce destin. Celui qui est libre, c'est celui qui peut choisir là où il va, peu importe qu'il soit ou non pourchassé. Thelma et Louise ont le choix de fuir jusqu'au Mexique. Al, lui, n'a pas d'autre choix que de les suivre et d'assister impuissant à leur fuite en avant. Un monde parfait fonctionne de la même façon avec la cavale de Butch, bien aidée par son complice Philippe, un petit garçon de 8 ans. Cette idée sera affirmée clairement par Eastwood dans une séquence où le jeune garçon a la possibilité d'abandonner Butch, qu'il retient en otage malgré l'amitié qui se crée entre eux, mais où il préfère se jeter à bord de la voiture pour continuer l'aventure. Je reviens une nouvelle fois à Easy Rider. Dans son livre, Christophe Cormier commence son chapitre consacré à la route par la définir ainsi. Le motif de la route donne à voir en premier lieu une perspective. Il figure le potentiel, le possible. Métaphore de tout parcours, la figure peut être investie de tous les désirs. La route est également signe de plaisir et de liberté, convoque le principe du rêve et donc de l'abandon du réel comme caractéristique de la marginalité représentative de la frange bohème du mouvement. Ici, le terme de mouvement est à rattacher à la contre-culture. Christophe Cormier présente ici la route comme un motif fortement lié à une idée de subversion. En effet, si la figure peut être investie de tous les désirs, elle invoque la possibilité d'un ailleurs meilleur. Les États-Unis sont à cette époque dans une période de troubles sociaux extrêmement importants. Nixon s'embourbe au Vietnam, la jeunesse du pays se réunit dans les communautés et le mouvement hippie prend de l'ampleur. Le simple fait de signifier que partir pour trouver un meilleur endroit où vivre suffit à faire des motos, des deux personnages d'Easy Rider, les vecteurs d'une forme de contestation qui va s'inscrire dans la route. Le film de Dennis Hopper interpelle bien cette frange bohème de la contre-culture symbolisée par Kerouac et son roman Sur la route. Quelque part sur le chemin, je savais qu'il y aurait des filles, des visions, tout quoi. Quelque part sur le chemin, on me tendrait la perle rare. Cette phrase, extraite du premier chapitre de Sur la route, résume cet idéal bohème d'une frange de la contre-culture. Sur la route a certainement constitué l'origine d'Easy Rider. En tout cas, le film de Dennis Hopper sonne comme l'écho cinématographique du roman de Kerouac. La route laisse envisager toutes les possibilités. Et toutes les possibilités, cela permet d'espérer combler ses désirs. Je reviens à Christophe Cormier pour parler un petit peu de scénario. Selon lui, il ne faut pas négliger le rôle de la route dans la stratégie narrative. Selon lui toujours, les rencontres faites sur la route ne déterminent rien d'autre qu'elles-mêmes. Elles sont le plus souvent sans conséquences, gratuites, et leur ordre est indifférent, aléatoire. Le film de Dennis Hopper est une succession de rencontres et de situations interchangeables, liées entre elles par les kilomètres de bitume. Ceci induit que le film n'est pas forcément écrit à l'avance, en tout cas pas forcément de la manière dont il sera monté au final. Le road movie, par son caractère nomade conjugué à la trame narrative extrêmement réduite, caractéristique de la contre-culture, se pose ici comme un genre qui se construit non pas sur la narration, mais sur la confrontation des individus. La richesse du film vient des rencontres qu'il nous propose. Il importe peu que Wyatt et Billy aient d'abord rencontré George Henson ou bien qu'ils aient commencé par séjourner dans une communauté. L'important est qu'ils aient vécu ces expériences d'hommes et de femmes. Mais si les années 60 et 70 ont été marquées par des films symboles d'une génération, donc on pense bien entendu à Easy Rider, force est de constater que depuis le début des années 80, nous pouvons observer un virage dans la production cinématographique et dans sa réception dans les sociétés occidentales. Easy Rider et les films du Nouvel Hollywood étaient des films fortement marqués idéologiquement. Le contexte politique et social de l'époque y a d'ailleurs fait pour beaucoup. Le cinéma américain était alors marqué par les différentes luttes pour les droits des minorités, contre la guerre au Vietnam et animé par la poésie des expériences beat. À partir des années 80, le cinéma américain est dominé économiquement par les superproductions à grand spectacle dont les producteurs, réalisateurs et scénaristes Steven Spielberg et George Lucas sont les symboles. Cette période coïncide avec le retour du Parti républicain à la Maison-Blanche. Donald Reagan est élu à la présidence des États-Unis en 81 et George Bush lui succède en 89. Les valeurs conservatrices font leur réapparition comme si les avancées sociales des 20 années précédentes n'avaient été qu'un accident de parcours. L'Union soviétique, après une période qu'on appelle la détente, redevient l'empire du mal. Les États-Unis lancent un programme d'armement pour se défendre de l'envahisseur, et la lutte du bien contre le mal devient ainsi le fonds de commerce de la production hollywoodienne. La conquête de l'espace remplace la conquête de l'Ouest, mais les codes restent les mêmes. Le héros est vêtu de blanc, le méchant lui est en noir. Il est sans pitié et écrase le monde, voire l'univers par la terreur. Star Wars recycle les codes du cinéma post-Nouvelle Hollywood et fait revivre John Wayne sous les traits de Luke Skywalker. Le cinéma n'est plus que divertissement, et les films polémiques, ou tout du moins critiques, ont de moins en moins d'espace pour être vus. Le circuit indépendant va devenir l'espace de travail d'un cinéma qui n'a pas oublié toute idée de subversion. Cependant, il bénéficie de budgets moins conséquents, et surtout ne possède pas son propre réseau de distribution, comme c'est le cas des majors hollywoodiennes. Cela pose évidemment des problèmes idéologiques, et les productions ouvertement contestataires doivent alors se battre pour être distribuées. Par exemple, le documentaire de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, sorti en 2004, a rencontré de grosses difficultés à sa sortie, sa société de production étant Miramax, propriété de Disney. Disney reçoit un financement de l'État de Floride, alors gouverné par le frère de George W. Bush pour son parc d'attractions, et voyait d'un mauvais œil le réquisitoire contre l'administration Bush que représentait le film de Michael Moore. Mais toute la production américaine n'est bien évidemment pas réduite au seul genre de film d'action à grand spectacle. Le cinéma américain continue de vivre sur ce qu'il a su construire et entretenir en termes d'imaginaire collectif, et la route reste un des décors privilégiés des réalisateurs. Cependant, cette route redevient essentiellement décor à un cinéma plus enclin à satisfaire les attentes d'un large public. Prenons l'exemple de Little Miss Sunshine, un film que j'aime beaucoup au demeurant. Le film fait appel à bon nombre de références au cinéma de la route que nous avons vu jusqu'à présent. Le film fait appel à bon nombre de références du cinéma de la route que nous avons évoqué un peu plus tôt. Nous retrouvons le désert, traversé de part en part par une route rectiligne et bordé par les motels et autres commerces pour routiers. Les personnages traversent les États-Unis d'est en ouest, à bord d'un van qui remplit parfaitement son rôle en cela qu'il coupe ses occupants de leur vie à la ville pour leur offrir un nouvel espace de perception de l'autre. Cependant, là où Easy Rider était clairement orienté idéologiquement, le film de Jonathan Dayton et Valérie Faris est beaucoup plus souple. Les 6 personnages présents à bord du véhicule sont construits pour être représentatifs de la société américaine dans son ensemble. Le père est le citoyen républicain par excellence. Son père se drogue régulièrement. Son beau-frère est un grand spécialiste de Marcel Proust, mais à ses yeux, il reste avant tout un perdant. Le spectateur est face à un panel de personnalités diverses et peut s'identifier facilement à l'une d'elles. En effet, chacun de ces personnages n'est montré sous un angle totalement positif ou totalement négatif. Le personnage du père, par exemple, est risible tout au long du film. Cependant, un éclair de lucidité au sujet du concours de beauté auquel sa fille est inscrite suffit à en faire un personnage beaucoup plus attachant. Il en va de même pour tous les personnages. Chacun est libre de se reconnaître dans un de ses personnages et aucun n'est totalement dénigré. On éprouve de la compassion pour le fils, la mère, le beau-frère. La naïveté et la bonne humeur de la petite fille nous amusent. Sa complicité avec son grand-père est drôle et touchante à la fois. Le père est odieux mais s'avère au final protecteur. La tendance est au consensus. Personne n'est complètement bon ou complètement mauvais. Loin du fonctionnement manichéen des superproductions, cette partie de la production cinématographique américaine parvient à avoir sa place dans les salles, en cela qu'elle parvient à toucher le public le plus large qui soit, en occultant les questions d'ordre politique ou polémique, au profit de valeurs beaucoup plus universelles comme l'amour, l'amitié, la famille. La route est toujours présente aujourd'hui au cinéma et continue d'invoquer la même mythologie que par le passé. La route 66, en tant que symbole, est toujours énormément présente. Elle continue d'alimenter les productions par les lieux communs que sont les néons des motels ou les stations-service isolées.
La route ! Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Et pour finir, quelques conseils de films pour compléter cette émission. N'hésitez pas à regarder les films que j'ai pu citer, Bonnie and Clyde, Into the Wild, Un monde parfait également, l'adaptation du roman de Kerouac, On the Road, même si, à mon sens, elle ne rend pas complètement hommage au roman. Vous pouvez également regarder Thelma et Louise, Little Miss Sunshine, bien entendu, le sublime Paris, Texas de Wim Wenders, Palme d'Or à Cannes en 1984, et tout un tas d'autres road movies que j'ai pu citer ici et là, Dead Man, qui, s'il est un western, est également un road movie. Et bien entendu, Easy Rider, qui reste une référence, symbole d'une génération et d'une nouvelle façon de faire du cinéma dans les années 70. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous dans 15 jours. Nous serons alors en plein Festival de Cannes et je consacrerai mon émission au réalisateur qui a reçu la Palme d'Or l'an dernier pour son film I, Daniel Blake, Ken Loach. Merci et bonne soirée.